Aujourd'hui, notre série de méditations, à partir du prétexte de cette liste médiévale qui date du IVe siècle des sept péchés capitaux. Bon, c'est une liste qui n'a pas lieu dans le protestantisme, mais c'est un peu un fil conducteur que nous avons voulu choisir pour réfléchir sur des grands thèmes. Et donc aujourd'hui, j'ai un péché très agréable qui est la gourmandise. À cette occasion, je vous lirai quelques textes, tout d'abord dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4. Jésus, nous dit-on, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit : Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce même évangile de Matthieu, au chapitre 11, nous avons un autre passage que j'aime beaucoup et qui est très curieux, à partir du verset 16. « À qui comparerai-je cette génération ?» dit le Christ. « Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques qui s'interpellent les uns les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu. Il ne mangeait ni ne buvait. Et vous, vous avez dit, il a un démon. En français courant, il est dingue. Et le Fils de l'homme, donc Jésus, lui, il est venu, mangeant et buvant. Et vous, vous dites, c'est un ivrogne et un glouton. Et enfin, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, il y a toute une réflexion sur le fait de manger une chose ou l'autre. Et voici ce que Paul nous dit. Chapitre 10, verset 23. Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout n'est pas constructif. Que chacun ne cherche non pas son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger avec lui, allez-y et mangez tout ce que l'on vous présentera sans vous poser aucune question par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle des autres. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Et si je prends ma part avec action de grâce, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, Éternel, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. La gourmandise, voici donc l'un des sept péchés capitaux et certainement celui pour lequel on a le plus d'indulgence. Et on ne voit pas très bien pourquoi le Moyen-Âge s'est donc acharné sur ce péché qui ne semble pas si capital que ça. En fait, au-delà de la gourmandise proprement dite, ce qui est en cause, bien sûr, je dirais, c'est la question des plaisirs matériels, la question des joies du corps. Et là se trouve effectivement ce sur quoi je voudrais réfléchir avec vous. Quelle place donner aux joies terrestres dans notre existence et quand ces joies terrestres peuvent-elles devenir mauvaises ou quand cela peut-il devenir un péché? Certains ont voulu rendre la chose plus compréhensible en ne disant non pas péché de gourmandise, mais en disant le péché de gloutonnerie. Comme si ce qui était pécamineux, c'était de manger beaucoup. Je crois que c'est une vision très simpliste des choses. Je ne crois pas que ce soit une question de quantité. C'est plutôt une question d'orientation, une question de position, une question d'état d'esprit dans laquelle on puisse faire la chose. Et donc transformer la gourmandise en gloutonnerie ne serait que de prétendre qu'une chose n'est mauvaise que si on en abuse et qu'il faudrait finalement une sorte de modération pour tout. C'est peut-être vrai pour le corps, mais je ne crois pas que cela soit vrai pour l'âme. Bizarrement, alors que le Moyen-Âge a donc voulu culpabiliser la gourmandise, Jésus était plutôt gourmand. Vous avez entendu tout à l'heure dans cet extraordinaire passage de Matthieu 11, versets 16 et suivants, que Jésus était considéré par ses contemporains comme un mangeur et un buveur, comme un ivrogne et un glouton. Ce qui prouve que Jésus n'était pas franchement, je dirais, un ascète. Et les mauvaises langues prétendent même que dans l'Évangile, il est plus souvent montré en train de manger qu'en train de prier. Je crois que c'est vrai. Et donc Jésus-Christ n'avait pas du tout cette image d'un ascète, comme Jean-Baptiste, justement, qui lui ne mangeait que des sauterelles et ne mangeait que du miel, qui était vêtu très simplement, très pauvrement, et qui avait des repas très frugaux. Jésus faisait bonne chère, il buvait du bon vin, il faisait des banquets, des bons repas, il avait des bons amis qui étaient des pêcheurs, des prostituées, des péagers, et il portait des vêtements qui n'étaient pas du tout des sacs immondes, puisque la robe qu'il avait sur le dos, quand il est mort, les soldats se sont disputés pour savoir qui prendrait sa robe, alors que quand un SDF meurt dans la rue, les policiers ne se disputent pas du tout les vêtements qu'il a sur le dos. Donc Jésus n'a pas cette image, effectivement, d'un ascète, comme Jean-Baptiste. Alors, que penser donc, et quel peut être le danger de la gourmandise ? La nourriture a en plus dans l'Évangile une place extraordinairement importante. C'est assez étonnant, mais on la retrouve du début à la fin. On la trouve bien sûr dans la Sainte Cène. C'est quand même pas rien que le rite le plus essentiel et fondamental de notre Église chrétienne, ce soit un repas. Ce n'est pas non plus un hasard que Jésus compare le royaume de Dieu à un banquet. Ce n'est pas un hasard non plus qu'il fasse un si grand chapitre sur le pain de vie en disant « Je suis le pain vivant descendu du ciel », ni même que l'un de ses miracles les plus extraordinaires soit une multiplication des pains. Mais je crois que justement, il y a, au début de l'Évangile du Christ, un texte assez intéressant qui est, les tentations du Christ. Les tentations du Christ, il y en a trois. La première, c'est donc celle de Jésus qui est, après avoir jeûné pendant 40 jours, est tenté de prier Dieu pour transformer les pierres en pain. Il y en a deux autres, vous le savez, l'une qui est le diable qui lui propose de se prosterner devant lui pour avoir tout le pouvoir du monde, et l'autre qui est que le diable lui dit « Ben écoute, si tu crois en Dieu, tu n'as qu'à te jeter du sommet du temple et Dieu te ramassera en envoyant des anges pour te porter. » Ces trois tentations sont extrêmement intéressantes parce que ce sont les trois risques de dérapage de la foi. Ce n'est pas simplement que Jésus ait été tenté comme cela par le diable. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça s'est passé exactement comme ça. Je crois qu'on a rassemblé dans un texte les trois tentations fondamentales de la foi. Les trois risques de dérapage de la foi, les trois choses à dépasser si l'on veut arriver à une foi adulte, une foi efficace, une foi opérationnelle, je dirais, une foi constructive. Alors ces trois tentations, ce sont évidemment aussi les nôtres. La première, eh bien, c'est bien sûr à propos de savoir si l'on se prosterne devant le diable pour avoir le pouvoir ou non. C'est d'abord de savoir qui l'on veut servir. Ça, c'est quand même la base. Est-ce que vous voulez servir votre profit? Est-ce que vous voulez servir le pouvoir, votre réussite matérielle et personnelle? Est-ce que vous êtes prêt à vous prosterner devant le mal pour faire cela? Est-ce que vous êtes prêt à tous les coups bas pour réussir? Ou est-ce que vous dites, eh bien désolé, non. Moi, j'adore Dieu. Donc moi, je suis au service, avant tout, de l'amour, du pardon, de l'humilité et de la vie. C'est la première chose, évidemment. La deuxième, à propos du Jésus sur le sommet du temple, c'est la tentation de croire que, ben après tout, puisqu'on croit en Dieu et qu'on a confiance en lui, on n'a qu'à laisser Dieu faire. C'est la tentation de ne pas se prendre en main. La tentation de croire qu'il suffit de prier pour régler tous les problèmes. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut et Dieu ramassera les morceaux. Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis responsable de ma propre vie. Et Dieu n'est pas là pour faire à ma place ce que je ne fais pas. Je crois effectivement que nous avons véritablement un rôle dans cette vie et le fait de croire à la prière ne nous dispense pas d'agir dans ce monde. Au contraire, nous avons une véritable délégation d'agir dans ce monde et ce n'est pas pour rire que Dieu ferait semblant de nous laisser le pouvoir dans ce monde, mais c'est notre rôle, notre responsabilité de gérer ce monde, de gérer cette planète et donc d'essayer de faire en sorte que le mal matériel dans ce monde recule et que le bien progresse. Dieu ne doit pas être utilisé à cette fin-là. Dieu sert à autre chose qu'à faire ce que nous devrions faire, ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et puis enfin, la dernière tentation, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celle de la gourmandise. Demander à Dieu de changer des pierres en pain quand on a faim. Ah là, il y a une piste. Il y a une piste, parce que peut-être que, dans ce cas, le danger de la gourmandise, ce ne serait pas le fait de manger ou de ne pas manger. Le texte que j'ai lu tout à l'heure à propos de Jean-Baptiste et de Jésus montre que là n'est pas la question. Le but, ce n'est pas de se priver de tout plaisir, comme Jean-Baptiste. Le but, ce n'est pas non plus de bouffer comme un porc, mais c'est autre chose, c'est ce que dit Jésus. Il dit, bon, le problème est ailleurs. Peut-être que le problème dans la gourmandise, c'est quand on veut y mêler Dieu. Quand on veut commencer à faire une sorte de confusion entre les plaisirs et les désirs terrestres et matériels, et puis la foi. C'est peut-être ça. Alors là encore, c'est très compliqué. Parce que c'est très bien de penser à Dieu quand on mange. Je pense que c'est une bonne chose. Et il ne faut pas dire donc qu'il faudrait séparer entièrement les deux choses et que manger c'est manger et puis prier c'est prier et donc comme s'il fallait se faire des plaisirs terrestres mais à ce moment-là en dehors du regard de Dieu et comme s'il fallait séparer les choses. Non, je ne pense pas que cela soit ça. C'est plutôt de dire faites attention, il ne faut pas mélanger le fait de manger à la religion n'importe comment. Il ne faut pas mélanger le fait de satisfaire, je dirais, les désirs de son corps ou les désirs matériels avec la foi d'une façon inadéquate. Il y a une juste manière et une mauvaise manière de le faire. Ce que le diable propose à Jésus, en fait, c'est de faire de sa propre satisfaction corporelle le but de sa religion. Pourquoi prie-t-on Dieu ? L'un des 10 commandements nous dit bien « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. » Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que l'on a cru pendant des siècles, que ça veut dire qu'il ne faut pas jurer en disant nom de Dieu, mais ça veut dire « Tu ne vas pas prier Dieu pour des babioles. Tu ne vas pas prier Dieu ou mêler Dieu à des choses qui ne sont pas essentielles. » La prière, c'est pour demander à Dieu ce qu'il y a de fondamental, d'essentiel, le but vraiment important dans ma vie. Et de prétendre prier Dieu pour que les pierres se transforment en pain, ce serait que tout à coup, Jésus fasse du fait de remplir son estomac sa priorité. La première chose à laquelle il tient, ce à quoi il tient le plus au monde, et donc je vais prier Dieu pour que ça se passe. Ça, c'est un peu dangereux. On peut aimer le chocolat, mais c'est dangereux d'en faire le but ultime de sa vie. Alors la question, c'est peut-être ça. En quoi est-ce que l'on croit ? Quel est le but ultime de sa vie ? Après quoi est-ce que je cours ? Ou même plutôt, si vous aviez un vœu à faire, si Dieu vous disait, comme font les bonnes fées dans les contes, « Fais un vœu et je l'exaucerai », quel serait ce vœu ? Qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu par-dessus tout ? Est-ce que ce serait de satisfaire votre corps? Est-ce que ce serait d'avoir des plaisirs, des petits plaisirs dans l'année? Eh bien, la réponse du Christ, elle est claire, c'est de dire, eh bien non, je suis désolé, c'est pas ça l'essentiel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que l'homme est plus que son corps, l'homme est plus que le boire et le manger. Car le royaume de Dieu, nous dit Paul en Romains 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et donc, moi, si on était au 1er janvier et que je devais vous faire des vœux pour le 31 décembre prochain, je ne vous souhaiterais pas avant tout de manger du bon foie gras, mais de vivre dans la paix et l'harmonie. C'est quand même, à mon avis, préférable. On dit en effet, parfois, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. C'est vrai que c'est un petit peu ça, finalement, le dérapage de la gourmandise. C'est quand on fait du fait de manger ou de satisfaire ses désirs, comme le sens même de sa vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas manger. On peut bien sûr manger pour se faire plaisir. Et là, le petit proverbe que je vous ai dit ne me semble pas juste. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. On peut aussi manger pour se faire plaisir. Après tout, il n'est pas interdit de se faire plaisir, même si on est chrétien. Et tant qu'à faire, je suis d'accord, l'essentiel n'est peut-être pas d'avoir des plaisirs terrestres, mais si on peut les avoir en plus, on ne va pas non plus quand même cracher dessus. Simplement de savoir que ces plaisirs ne peuvent pas donner de sens à notre vie. Et donc on doit prendre les joies du corps en passant, avec joie, avec reconnaissance, parce qu'après tout, il vaut mieux être heureux et avec des plaisirs que heureux sans plaisir. Mais comme n'étant pas nécessairement indispensable. Et il y a là-dessus un passage magnifique de Paul que je trouve très explicite en Philippiens 4, où Paul justement discute de savoir, ou exprime plutôt des vœux et des souhaits un petit peu matériels. Et Paul dit la chose suivante. Il dit « Mais ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est effectivement, je crois, une attitude extraordinaire, où l'on peut à la fois avoir faim et être rassasié, mais que finalement, c'est indépendant du reste. Mais néanmoins, je crois que notre foi, justement, c'est de croire que l'on peut trouver en Dieu une force, une puissance et même une joie qui est au-delà du fait que l'on ait ou non ses plaisirs et ses joies matérielles, qui est au-delà de tout ça, qui donne une joie plus durable, un bonheur peut-être plus profond, une paix plus profonde, qui fait que, finalement, on peut très bien vivre sans ces joies-là. Alors, profitons des joies matérielles, bien sûr, mais pourtant, peut-être faut-il savoir s'en passer. Et là, bien sûr, je me prêche à moi-même. C'est peut-être cela l'importance du jeûne dans la Bible. Le jeûne que nous ne pratiquons plus guère, sauf nos frères catholiques qui en ce moment sont en plein dans le carême. Alors le jeûne dans la Bible, c'est une chose étonnante qui a été pratiquement abandonnée aujourd'hui. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, le jeûne est mis à égalité avec la prière. Jésus dit que le jeûne et la prière sont les deux choses fondamentales par lesquelles on peut chasser le mal dans une existence. Peut-être que le jeûne consistait justement à être capable, à certains moments, de refuser la nourriture matérielle, justement pour montrer que l'on peut s'en passer, justement pour montrer qu'elle n'est pas essentielle, pour être capable de faire la place, et de justement de faire la place pour l'essentiel, d'éviter que les accessoires prennent tellement de place que finalement on vive en marchant sur les accessoires. Les joies matérielles ne sont que des accessoires de la vie. C'est les guirlandes de notre existence. C'est des bons moments, c'est merveilleux, c'est formidable, mais ce sont des guirlandes. Et donc peut-être parfois il faut retirer les guirlandes pour voir l'arbre qui lui vraiment est en dessous. parce que s'il n'y a plus que des guirlandes et qu'il n'y a plus d'arbres, même les guirlandes s'effondrent. La mauvaise gourmandise, ce serait celle qui ne laisserait plus aucune place à Dieu, celle qui ne laisserait plus aucune place à la recherche fondamentale de ce qui est vrai, de ce qui est juste, éternel, consistant dans notre existence. Et ça, c'est vrai pour tous les autres désirs, pour le pouvoir, pour la possession. Bon, tout ça, c'est très bien, mais quand on remplit sa vie à bloc et qu'il n'y a plus aucune place pour rien d'autre ou pour Dieu, alors là, ça devient très grave. Et là, effectivement, je comprends ce qu'a voulu dire le Moyen-Âge, cette gourmandise-là qui tendrait à remplacer Dieu par des plaisirs matériels et corporels, qui tendrait à faire croire que l'on pourrait être heureux en multipliant les plaisirs, eh bien, ce serait le pire des mensonges, parce que le bonheur de la vie, fondamentalement, n'est pas là-dedans. Et donc, peut-être faut-il savoir expérimenter le manque. L'autre leçon que nous donne, j'allais dire, le diable dans ses tentations du Christ, c'est une petite leçon théologique, je dis en passant, c'est que Dieu n'est pas là pour nous donner à manger matériellement. Voilà. Prie l'Éternel et il transformera ces pierres en pain pour que tu puisses manger. Et Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas là pour nous donner des plaisirs matériels. Les plaisirs matériels, débrouillez-vous pour les trouver vous-même. Voilà, vous vous débrouillez. Ce que Dieu peut nous donner, c'est pas ça. Ce que Dieu peut nous donner, ce sont des bienfaits spirituels. Manger, c'est une chose matérielle, mais nous n'avons pas à croire que ce serait Dieu qui nous donnerait ou non à manger. Et pas à croire non plus que si nous avons à manger, c'est grâce à Dieu. Et pas à croire non plus que si vous avez pu vous éclater sur les pistes de ski, c'est Dieu qui vous l'a offert. Après tout, il y a des gens qui sont en chaise roulante, et eux, ils ne se sont pas du tout éclatés sur les pistes. Et ce n'est pas Dieu qui vous a évité, je dirais, les malheurs terrestres. Simplement, la vie, elle est comme ça. On prend le bien, le mal, on le supporte, mais l'essentiel n'est pas là. Si en plus on peut prendre des plaisirs, prenez-les. Mais ne croyez pas, ni que ce soit Dieu qui vous favorise, ne croyez pas que ce serait en priant Dieu que vous aurez plus de joie, plus de plaisir, plus de foie gras ou plus de pistes de ski, plus de soleil. Dieu est tout à fait d'un autre ordre. Dieu est tout à fait ailleurs. Dieu, il vous donne ce qui est dans la profondeur de l'être. Dieu, c'est la joie profonde, la paix intérieure. Dieu peut nous donner que l'on soit heureux et que l'on trouve le soleil dans son cœur même quand il pleut, que l'on puisse s'éclater même si l'on est en chaise roulante. Et je crois que c'est là une force effectivement tout à fait fondamentale. Alors vous voyez que finalement je prêche là une sorte de ce que l'on appelle une théologie des deux règnes. Théologie des deux règnes, c'est un thème connu dans le protestantisme, on dit voilà, il y a deux domaines séparés, il y a le monde matériel et puis le monde spirituel, et puis finalement ce sont deux domaines étanches. Donc on a dit que les protestants par exemple ne se souciaient pas du tout de réussir dans les affaires ou d'appliquer les lois du commerce dans leurs affaires, parce que ça c'est le règne du monde, et puis il y a le règne de Dieu qui est autre chose. Mais pourtant je crois qu'il ne faudrait pas pousser à bout ce type de théologie des deux règnes. Je ne prétends pas qu'il y aurait d'un côté la foi et tout ce qui concerne Dieu, et d'un autre côté, d'une façon étanche, notre vie quotidienne et matérielle qui ne concernerait que nous et qui fonctionnerait sur d'autres modes. En fait, je pense que l'on peut, et c'est même recommandé, essayer de faire le lien entre ces deux dimensions. Et là, la Bible est très claire là-dessus. Elle dit oui, ce n'est peut-être pas Dieu qui va vous donner, qui vous a donné la santé et qui vous donne les bons menus du midi. Mais néanmoins, on peut, en mangeant, rendre gloire à Dieu. Et on peut, en mangeant, penser à Dieu. Et on peut profiter des joies en rendant grâce à Dieu, d'une certaine façon. Et le Christ lui-même, je vous ai dit qu'il était souvent montré en train de manger, mais chaque fois qu'il mange, il y associe sa propre foi. Il rend grâce à Dieu. Il bénit les pains de la multiplication des pains. Et je pense que nous n'avons pas à quitter notre oratoire quand nous allons dans notre salle à manger. Nous n'avons pas à nous faire plaisir en nous cachant de Dieu. Nous pouvons nous faire plaisir sous le regard de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, et c'est tout à fait d'actualité, la question a souvent été posée ici même dans ce temple, de savoir s'il était opportun ou non que les enfants jouent au foot dans le cœur du temple. Certains sont très choqués par cette idée, en disant « mais c'est une honte ». Et moi je dis « ça n'est pas une honte ». Parce que si Dieu s'offusque de voir des enfants jouer devant lui, eh bien je ne veux pas croire dans ce triste cire. Je crois au contraire que Dieu se réjouit avec nous quand nous sommes heureux. Je crois que Dieu ne veut que notre bonheur et que Dieu ne veut que nos joies. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi Dieu, finalement, il y aurait la moindre culpabilité, la moindre honte à s'amuser, à être heureux, à être joyeux, à bien manger, à bien boire. Simplement, il ne faut pas tout confondre. Ça fait partie des joies de l'existence. Et oui, nous ne sommes pas des purs esprits, nous ne sommes pas des anges, nous sommes incarnés. Et Dieu a voulu partager, je dirais, cette incarnation en envoyant Jésus. Et Jésus a partagé nos joies et nos peines aussi. Ben oui, il est mort à 33 ans, c'est pas très marrant, sur une croix. Mais Dieu, Jésus, a partagé nos joies et nos peines. Et il les a partagées plus que tout le monde. Je crois qu'il a souffert plus que tout le monde et qu'il s'est vraiment fait plaisir plus que tout le monde aussi, finalement. Vraiment, il ne s'est pas privé de bien manger et de bien boire. Donc finalement, je crois que Dieu, nous pouvons associer, vivre tout cela dans la foi et dans la reconnaissance, en disant « Seigneur, l'incarnation, tu le vois, n'est pas qu'une source de misère. Et l'incarnation peut aussi être une source de joie pour nous et pour les autres. Et nous pouvons au contraire, dans la foi, essayer de comprendre en quoi nous pouvons être encore plus joyeux de nos joies, et profiter encore plus profondément des chances qui nous sont offertes, et non pas de les vivre en nous cachant. Oui, merci Seigneur, j'ai une joie, j'ai une chance. Eh bien, amen, j'en suis content. Et je le vis d'un cœur libéré, joyeux et reconnaissant. Et puis si je peux partager avec les autres, tant mieux. Et puis si demain je ne l'ai plus, tant pis. » Et donc simplement, ce qu'il faut, c'est respecter l'ordre des priorités. Jésus ne dit pas que l'homme ne doit pas manger au moment des tentations, mais il dit... L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre Dieu au service de son ventre, mais le contraire. Il ne faut pas mettre Dieu au service de ses plaisirs, mais le contraire. On peut mettre ses plaisirs et ses joies au service de Dieu. Et plutôt que de manger son foie gras tout seul dans son coin, on peut inviter des amis. Autrement dit, c'est une question de hiérarchie. La perversion de la gourmandise, c'est de se tromper sur le lieu de la place de Dieu dans nos vies et sur son mode d'action. Il faut que tout ça soit chaque chose à sa place, si vous voulez, bien hiérarchisé. Et chaque chose à sa place, non seulement au niveau des hiérarchies, des importances, et aussi chronologiquement. Parce que certainement qu'il y a aussi une question du juste temps. Il y a un temps pour tout. Et peut-être qu'il y a là... aussi un dernier problème qui serait celui de la mauvaise gourmandise qui consisterait à manger à contre-temps. Le juste temps, c'est aussi quelque chose de très important dans nos vies. C'est vrai pour toute action matérielle de notre existence. C'est comme l'histoire de Marthe et Marie. Vous savez, Marthe qui fait la vaisselle pendant que Marie écoute Jésus. Le problème, c'est pas que ce soit mauvais de faire les services matériels. C'est que Marthe le fait au mauvais moment. Quand le Christ est là, eh bien, il faut l'écouter. Et tout à l'heure, si j'ai dit que ça ne me choquait pas que les enfants jouent au foot dans le temple, je ne trouverais inconvenant qu'ils jouent au foot pendant que je prêche. Voilà. Et donc, il faut mettre les choses à leur place. Il faut que chaque chose soit bien à sa place. Et c'est la même chose quand, à un moment donné, Jésus... Encore une affaire de gourmandise. Vous savez, Jésus parle avec la Samaritaine dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Et à ce moment-là, les disciples amènent à Jésus de quoi manger. Et Jésus refuse à ce moment-là de manger. Ça ne lui ressemble pas. Mais là, il refuse de manger ce que lui apportent les disciples. Et voici comment ça se passe. On nous dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples qui ne comprenaient rien se disaient les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait donc apporté à manger. Et Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oui, effectivement, il faut que chaque chose ait une place, il faut que chaque chose soit à la juste place, au bon moment. Et c'est tout ça la question de trouver l'harmonie et la justesse des choses dans notre existence. Le Christ lui-même nous invite à la fois parfois à ne pas manger, et parfois, comme dans l'évangile de Jean encore, tout à la fin, le Christ ressuscité, c'est quand même pas rien le Christ ressuscité, eh bien, il invite les disciples à aller faire une bonne partie de pêche sur le lac de Tibériade. Ensuite, il dit, allez, vous venez avec moi, j'ai allumé un barbecue sur la plage. C'est ça, il dit, on trouva sur la plage un feu, etc. Et là, on va faire griller du pain et des poissons, et ça va être épatant. Eh bien, c'est quand même extraordinaire, ce Christ ressuscité qui conclut son évangile de Jean, le plus spirituel de tous, par ce genre de choses. Bien sûr, il peut y avoir un sens symbolique à cela, mais néanmoins, cela n'est pas indifférent. Et donc, frères et sœurs, voilà ce que je pense de cette gourmandise, qui est un péché qui peut devenir, oui, effectivement, un péché capital, et qui nous invite, je crois, à trouver la bonne place de Dieu dans nos vies. Amen.